Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Maté Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une unité d'appui et de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique au sein de cet institut. Alors aujourd'hui on va parler de gaz rares, radioactifs et de matériaux poreux. Et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Adrien Bourgois. Bonsoir Adrien.
Bonsoir.
Tu es doctorant en deuxième année à l'UCCS et ton sujet de thèse s'intitule « Étude des mécanismes mis en jeu dans le piégeage de gaz rares radioactifs au sein de matériaux poreux innovants ». Alors, est-ce qu'on peut commencer par parler un peu de ce sujet de thèse ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots ?
Oui. Tout d'abord, merci de m'accueillir pour cette émission. Donc pour un peu simplifier ce sujet de thèse, donc c'est synthétiser de nouveaux matériaux poreux que je détaillerai juste après pour justement une problématique dans le cadre d'un accident nucléaire où des gaz rares vont justement se retrouver dans l'atmosphère et donc l'idée c'est de les piéger pour limiter cette contamination atmosphérique.
Donc les matériaux poreux, qu'est-ce que c'est ? Il y a différents types ? Comment ça fonctionne ?
Alors les matériaux poreux, donc il y a des grands types qui sont plus ou moins connus, qu'on connaît aussi même chez nous. Il y a les zéolithes, les charbons actifs qu'on peut utiliser dans notre carafe d'eau pour filtrer les différentes espèces de l'eau courante. Et là, moi, ce que je développe, c'est les Metal Organic Frameworks, donc les MOF. Et qui sont donc des matériaux qui s'assemblent. Enfin, c'est un assemblage d'un cation métallique avec un ligand organique. Et donc cet assemblage va former un réseau poreux 3D, donc dans les trois directions, et donc va permettre d'avoir des cavités en son sein pour venir piéger des espèces en milieu liquide, en milieu gazeux. Donc c'est ça concrètement les matériaux que je développe.
Très bien, donc piéger des espèces, donc des gaz rares radioactifs. Quels sont les types de gaz rares que tu étudies et dans quel contexte ils sont produits ?
Alors les gaz rares radioactifs que j'étudie dans le cadre de ma thèse, c'est dans le cadre de l'accident nucléaire, donc on va avoir le xénon, l'isotope 133 et le krypton, isotope 85, qui sont des produits de fission de l'uranium en combustible. Et on a aussi en parallèle, mais ça qui n'est pas dans le cadre de l'accident nucléaire, mais qui est tout de même un gaz rare radioactif, qui est le radon. Donc on connaît, qu'on a peut-être entendu parler, donc le radon qui est un gaz rare radioactif naturel, qui est issu de la décroissance des roches, de l'uranium dans les roches, et qui peut se retrouver typiquement dans nos caves, dans des espaces confinés. Et donc, comme ça reste un gaz rare radioactif qui est présent naturellement, et donc avec lequel on peut plus facilement se produire, plutôt que de créer un accident nucléaire pour pouvoir avoir le crypto ou le xénon. Du coup, j'utilise aussi, dans le cadre de ma thèse, le radon en guise de simulant d'isotopes radioactifs.
Et alors, est-ce qu'ils sont dangereux, ces gaz ?
Alors oui, du coup le radon, donc pour lui, c'est la deuxième cause de cancer des poumons après le tabagisme. Et donc, il y a vraiment un enjeu derrière, donc sur le côté espace confiné, filtration d'air. Ensuite, sur l'accident nucléaire à proprement parler, du coup, le xénon et le krypton sont aussi justement des produits de fission. Donc, au même titre que tous les autres produits de fission, ils sont dangereux. Pas forcément autant que l'iode, mais tout réside en fait dans la quantité justement produit de ces gaz et qui sont clairement beaucoup plus grands. En grandeur que l'iode. Et donc en fait la masse accumulée notamment proche de la centrale en cas d'accident va faire que les expérimentateurs, les travailleurs de la centrale vont être exposés à une dose significative d'irradiation parce que ces gaz sont émetteurs de rayonnement ionisant qui une fois impactés sur la peau peuvent engendrer justement des maladies par la suite.
Donc les principales applications de tes recherches, c'est le nucléaire. Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Alors, concernant les matériaux poreux, du coup, c'est large. Donc ça peut être le médical, ça peut être du coup la filtration de CO2 pour l'environnement, pour purifier l'air. le nucléaire forcément, donc dans le cadre de ma thèse. Et donc c'est ça aussi tous les avantages que apportent les MOF, c'est la variété d'applications possibles et donc justement la variété aussi de tous les sujets qu'on peut développer à partir de ces matériaux.
Est-ce que les MOF pouvant capter ces gaz existent déjà ?
Alors, pour capter ces gaz, non, parce que c'est le propre de mes recherches, de pouvoir mettre au point justement les bons matériaux pour capter ces gaz. Après, cependant, ces matériaux sont déjà développés pour capter d'autres types de gaz, donc notamment beaucoup de recherches sur la capture du CO2, comme j'ai dit, pour décarboner l'air, sur la capture d'hydrogène aussi. Donc, notamment pour l'utilisation potentielle en l'hydrogène en tant que combustible. Et donc, moi, dans le cadre de ma thèse, du coup, développer les matériaux pour les gazards.
Et du coup, si on revient sur le nucléaire aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour empêcher ces gaz de se propager ?
Alors, c'est ça un peu la problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de système à l'heure actuelle dans les centrales pour capter ces gaz rares. Donc il y a du coup un système de bac à sable qui va permettre, donc en cas d'accident, quand schématiser une centrale, vous avez un bâtiment réacteur avec le combustible, et donc si un accident vient arriver dans ce bâtiment, la pression va augmenter et il va y avoir un risque justement d'explosion de ce bâtiment. Pour éviter ça, il y a un système qui par ventilation, donc le filtration venting FCSV, donc filtration containing venting system, qui va permettre justement de bifurquer une partie du flux gazeux pour dépressuriser l'enceinte et éviter l'explosion. Et ce flux gazeux va passer dans un filtre à sable qui va permettre de capter les espèces, les produits de fission, donc notamment les espèces comme l'iode, les principaux produits de fission dangereux, mais ces systèmes sont pas adaptés pour des espèces de très petite taille, qui sont une caractéristique des gaz rares, qui sont justement de l'ordre de quelques angstroms en diamètre, et donc ça va pas être au point pour capter ces gaz. Et donc à l'heure actuelle, en cas d'accident, ça viendrait être dans l'atmosphère. Donc du coup, tout le sujet de ma thèse, c'est de développer un surfiltre pour pouvoir capter ces espèces qui, à l'heure actuelle, ne le sont pas.
Angstrom, c'est une taille très très petite, c'est ça ?
Oui, c'est 10 moins 12...
En effet. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta méthodologie ? Comment on fait pour étudier ces types de matériaux ?
Alors, la première partie, c'est de connaître justement les gaz rares, leurs caractéristiques, et savoir un peu quel MOF va pouvoir répondre pour la capture de ces gaz. Donc, ils sont très inertes chimiquement, et donc, il va être très peu possible d'engendrer des interactions avec eux. Donc le seul moyen pour pouvoir les capter, c'est par confinement. Donc du coup, à partir du diamètre connu de ces gaz, je vais sélectionner plusieurs MOF qui ont des cavités adéquates, optimales pour pouvoir capter ces gaz et les piéger en leur sein. Et donc du coup, une fois sélectionné, il va y avoir plusieurs étapes. Donc l'étape de la synthèse du matériau. Pour bien sûr répondre à un usage industriel, il faut pouvoir avoir une synthèse la plus verte possible et aussi en grande quantité. Donc il faut aussi des MOF qui sont facilement synthétisables. Et ensuite, une fois synthétisés, ces MOF sont sous une forme de poudre. Donc il va y avoir aussi une étape de mise en forme pour justement avoir un meilleur usage à l'échelle industrielle. Et une fois ces MOF mis en forme, il va y avoir des tests de capture de gaz rares, donc ce qui s'échelonne sur différentes parties. Donc une première partie stable, pour au moins savoir les meilleurs candidats qui pourront potentiellement faire des essais qui, cette fois-ci, seront en radioactif. Donc, pour pas justement directement aller dans le bain de la radioactivité, c'est de faire des essais d'abord safe, assez, on va dire. Donc, du coup, c'est ça un peu la méthodologie.
Tu nous parles de mise en forme. Donc, au départ, c'est une poudre. Et ensuite, concrètement, ça se définit comment ?
Donc du coup, le produit de synthèse, donc c'est la poudre du MOF, et pour la mise en forme, il y a différentes techniques. Et donc le MOF peut être mélangé avec du coup un liant, donc ce qu'on appelle un liant, dans de l'eau ou un autre solvant, et former une espèce de pâte, donc un peu comme une pâte à modeler. Et donc cette pâte va ensuite aller dans un appareil adéquat qui va permettre, avec une sortie, de mettre en forme justement comme on veut le MOF, donc sous une forme cylindrique, sous une forme de bille. Et donc ça, différentes techniques existent, c'est très exhaustif, et donc j'en ai choisi une ou deux qui répondraient de par la taille obtenue du produit fini et aussi de par la simplicité un peu du process pour répondre à cette problématique. Donc typiquement, c'est pour comme faire des pâtes, en fait. On fait des pâtes.
Du coup, tu nous as parlé de l'analyse. Enfin, comment elle se déroule? Est-ce qu'il y a des machines spécifiques pour tester ces MOF?
Oui. Donc là, du coup, je suis embauché par l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Et donc, tous les tests, justement, statiques, dynamiques, tous les tests dynamiques avec les gaz rares radioactifs ou les gaz rares stables sont menés au sein d'installations propres à la SNR. Et donc, qui sont des installations assez uniques en France et même dans le monde, pour justement analyser ces MOF comme si c'est un flux passé, donc vraiment simuler le cas de l'accident avec le flux d'isotopes qui passerait au sein du matériau.
Ok, donc tout se passe dans une sorte de boîte fermée. J'imagine oui. Que toi, tu peux peut-être manipuler avec des gants à l'intérieur. Comment ça?
Oui, donc les installations, du coup, c'est sous Sorbonne, les installations, du coup, pour tout ce qui est partie stable. Donc là, il n'y a pas forcément trop de danger associé. Mm-hmm. Donc c'est un banc d'essai qui est mis dans une Sorbonne, donc avec la ventilation associée. Et donc pour la partie radioactive, là, du coup, il y a des protocoles qui sont mis en place avec une dosimétrie, justement un suivi de la dose reçue en cas de problème de manipulation. Et donc ça, c'est très encadré et tout est très protocolaire.
Revenons sur les MOF, tu nous as parlé d'une sélection. Il y a différentes catégories, c'est ça?
Oui. Donc, de par leur méthode de synthèse, donc comme j'ai dit, l'association du cation et d'un ligand, et donc il va y avoir en fait une multitude de structures possibles, avec du coup tous les métaux possibles du tableau périodique, les ligands organiques, donc forcément il va y en avoir énormément, et donc tout ça va former un panel monstrueux de possibilités de structures. Donc si je me souviens bien, il y a à l'heure actuelle plus de 40 000 ou 100 000 structures répertoriées, donc c'est vraiment énorme, et donc ça nous laisse un champ large pour la problématique. Et donc, du coup, j'ai choisi ceux qui, avec leur taille de port, fitteraient le mieux avec, du coup, les gaz rares. Donc, comme j'ai dit, j'en ai choisi 5 pour avoir une base assez solide de savoir lesquels pourraient répondre au mieux à la problématique.
Et comment sais-tu, lors du déroulement de l'analyse, que le MOF a capturé le gaz?
Alors pour la partie, enfin ça du coup c'est pour la partie statique, donc ça on a une quantité finie parce que du coup c'est des conditions statiques, donc on va remplir le MOF de gaz et voir concrètement donc avec l'appareil de mesure d'absorption en sa surface, on va voir un peu, on va mettre le gaz avec la poudre et on va voir combien elle peut capter. Donc ça c'est une valeur connue fixe qu'on va connaître. Pour la partie dynamique, là, du coup, on va avoir du coup des appareils associés spécifiques pour la mesure, et ça va permettre du coup d'avoir en fait une mesure en temps réel de ce qu'on mesure et ce que le MOF subit comme flux. Donc typiquement, si j'envoie un flux de xénon qui va passer à travers un lit de poudre ou un lit de mise en forme, en sortie, je vais mesurer ce que j'observe. Et donc, si j'observe zéro, si j'observe pas de concentration, du coup, ça veut dire que tout ce que j'ai envoyé en amont est capturé par mon MOF. ou alors volatiliser en cas de fuite, mais forcément l'étanchéité est assurée. Et donc après, en aval, il va y avoir un moment où du coup je vais observer une augmentation de la concentration, et donc c'est là où je pourrai en fait calculer la saturation de mon matériau en fonction de la masse et donc en fonction des différents paramètres expérimentaux.
Et aujourd'hui, quelles sont les avancées de tes recherches ?
Donc là, pour l'instant, j'ai du coup synthétisé les 5 MOF en grande quantité. J'ai commencer à faire des premiers tests statiques et dynamiques. Et ça, je les ai fait sur la poudre. Et donc maintenant, c'est toute l'étape vraiment de tester la meilleure mise en forme pour voir aussi cette étape de mise en forme, l'influence que ça a sur les performances de capture, puisque forcément, en modelant un peu la poudre, on va forcément perdre un peu en porosité. Et donc, le but, c'est vraiment de minimiser cette perte avec la formulation adéquate et la forme optimale. Et ensuite, du coup, faire d'autres perspectives d'optimisation de capture, donc notamment par une fonctionnalisation avec des groupements fonctionnels qui vont permettre d'augmenter la polarabilité du matériau et donc espérer un peu aller chercher une affinité chimique avec le xénon et le krypton ou le radon qui n'existent pas de par leur inertie, mais du coup essayer vraiment d'augmenter ces interactions chimiques et aussi par le dopage avec le métal, puisque des études ont montré que le dopage métallique pourrait aussi augmenter cette polarisabilité.
Et quelles sont les perspectives concernant la suite de tes recherches ?
Du coup, la perspective, c'est de, un peu comme j'ai dit, c'est de faire ces étapes, de confirmer les résultats ou non, et donc d'ajuster, en fait, un peu comme un entonnoir, de commencer par une grande base et petit à petit arriver à un matériau adéquat et le mieux possible.
Merci Adrien pour ces premières réponses. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec le morceau Abracadabra de Lady Gaga. De retour pour la deuxième partie de cet épisode de Maté Radio sur Radio Campus. Je suis toujours en compagnie de Adrien, un doctorant de deuxième année. Je te propose maintenant qu'on revienne sur ton parcours et les motivations qui t'ont amené à faire de la recherche. Quelles études as-tu suivies ?
Eh ben, du coup, j'ai suivi un parcours très linéaire. Donc, du coin, j'ai envie de dire. Donc, après, du coup, mon baccalauréat, je suis directement entré dans l'université avec un parcours licence, master et maintenant doctorat, donc toujours à l'université.
Quelle licence et quel master, du coup ?
Alors, j'ai fait la licence saisie en première année, puis après, je me suis spécialisé en licence de chimie générale. Et en master, j'ai pris le master MI2E, donc matériel inorganique pour l'énergie et l'environnement, qui avait déjà un attrait particulier pour le nucléaire. Et donc, du coup, ça m'a aussi poussé un peu pour la thèse. C'était un sujet un peu qui fitait bien avec ce que j'avais étudié.
Est-ce que tu as toujours voulu faire de la recherche ?
Alors, oui. Enfin, toujours, c'est un bien grand mot, mais tout du moins, j'ai toujours fait des stages de recherche dans mon cursus, et donc ça me paraissait évident pour moi, en fait, qu'après le master, je continuais. De par mon appétence aussi pour la recherche qui s'est confirmée par les stages, et aussi surtout le fait qu'après le master, je me voyais pas forcément directement rentrer dans l'industrie, dans le monde du travail. Et donc, je voyais directement déjà en ligne de mire le doctorat pour finaliser. C'est un peu le chapitre final.
Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ta thèse aujourd'hui ?
À peu près tout. Je dirais le sujet qui vraiment est intéressant, actuel, qui répond à vraiment une problématique environnementale, de santé. Donc, du coup, c'est un peu tout ça. Aussi le côté innovateur de cette thèse, de mettre au point, d'essayer de mettre au point, parce qu'en 3 ans, c'est assez court au final, le temps passe très vite, mais mettre au point vraiment un système et donc vraiment avoir cette ligne de mire et avancer à 3000 à l'heure.
Ta thèse, elle est un peu particulière. Tu la réalises avec l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et en parallèle sur plusieurs universités, c'est ça ?
Alors, pas plusieurs universités, okay. Mais sur plusieurs sites. D'accord. Donc, du coup, la SNR qui est associée au CEA sur les sites du CEA. Et je suis amené donc pour faire les tests, notamment dynamiques, comme j'ai expliqué, sur les sites, donc sur leur installation unique, où du coup ça va être partagé entre le CEA de Cadarache, situé près d'Aix-en-Provence, et le CEA de Saclay au sud de Paris. Et donc ça va être un peu un yo-yo comme ça, un cycle qui va me permettre de justement mettre au point à Lille les matériaux, faire les premières caractérisations primordiales pour savoir si le matériau est bien synthétisé et s'il a les performances pour pouvoir aller faire les tests dynamiques et ensuite faire les tests statiques, les tests en gaz rare stable ou en gaz rare radioactif sur les différents sites.
J'imagine que c'est avantageux aussi d'avoir plusieurs sites pour pouvoir avoir plusieurs équipements ?
Oui. Comme j'ai dit, c'est pouvoir un peu expérimenter des installations uniques, pouvoir aussi avoir un plus grand panel de ce qui peut se faire dans la recherche, parce que la SNR a aussi un petit pied dans ce qui peut se faire en industrie. C'est pas très très laboratoire, c'est pas très scolaire. Et comme ce qu'on a dans les laboratoires universitaires, donc ça permet aussi d'avoir un peu l'étendue de ce qui peut se faire à échelle industrielle, à échelle pilote, et aussi du coup avec justement avoir déjà un pied dans un monde qui est plus industriel que académique.
Ça serait plutôt ta volonté de partir plutôt vers l'industriel du coup.
Oui, clairement, c'est de toute façon cette thèse s'axe sur ça, et donc c'est aussi ce qui allait un peu dans ma vision. C'est je me voyais pas rester dans l'académique, mais on ferme jamais les portes, on peut pas savoir de quoi demain est fait, et c'est un peu aussi le côté où il y a deux ans. Je me voyais pas rentrer dans le monde du travail, mais dans 3 ans, ça sera autre chose. Il y aura forcément 3 ans de recherche derrière, et puis les portes potentiellement à ouvrir ne seront pas les mêmes. Donc,
c'est clair. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à des jeunes qui seraient intéressés pour faire de la recherche ?
De se lancer, de tester. Par les stages, comme j'ai pu le faire, de vraiment, les stages sont vraiment efficaces pour avoir une première idée de comment se passe la recherche plus tard dans les laboratoires, et donc vraiment ne pas hésiter, ne pas attendre aussi les stages, mais déjà le faire volontairement. Toutes les expériences sont bonnes à prendre, et donc justement. Tout questionnement peut être répondu avec justement les différentes expériences possibles.
Bah merci Adrien pour toutes tes réponses et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous retrouverez cette interview en podcast sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine Maté Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.